Chapitre 13. Question. Ouf, voilà des paroles dures. Tu veux dire que nous ne devons jamais rien promettre à personne? Réponse. La plupart d'entre vous vivent d'une façon telle, actuellement, que chaque promesse comporte un mensonge. Le mensonge, c'est d'affirmer que vous savez maintenant comment, à un moment donné, vous vous sentirez par rapport à telle chose et ce que vous voudrez en faire. Vous ne pouvez le savoir si vous vivez comme un être réactif, ce que vous êtes dans l'ensemble. Ce n'est que lorsque vous vivez comme un être créatif que votre promesse ne contient aucun mensonge. Les êtres créatifs peuvent savoir comment, à n'importe quel moment de l'avenir, ils se sentiront par rapport à une chose, car ils créent leurs sentiments au lieu d'en faire l'expérience. Ce n'est qu'en créant ton avenir que tu peux le prédire. À moins de prédire ton avenir, tu ne pourras rien promettre de sincère en ce qui le concerne. Mais même celui qui crée et présage son avenir a le pouvoir et le droit de changer. Le changement est un droit fondamental de toutes les créatures. En effet, c'est plus qu'un droit, car un droit, c'est ce qui est accordé. Le changement, lui, est ce qui est. Le changement est. Tout ce qui est, changement. On ne peut te donner cela. Tu es cela. À présent, puisque tu es changement, et puisque le changement est la seule chose constante en ce qui te concerne, tu ne peux sincèrement promettre de toujours être le même. Question. Tu veux dire qu'il n'y a aucune constance dans l'univers, que dans toute créativité, rien n'est immuable? Réponse. Le processus que vous appelez la vie est un processus de recréation. Toute la vie se recrée constamment à nouveau, à chaque instant présent. Dans ce processus, l'identité est impossible, car si une chose est identique, c'est qu'elle n'a pas du tout changé. Mais si l'identité est impossible, la similitude ne l'est pas. La similitude résulte du processus de transformation qui produit une version remarquablement similaire de ce qui s'est déjà passé. Lorsque la créativité atteint un niveau élevé de similitude, on appelle cela l'identité. Et de la grossière perspective que vous offre votre point de vue limité, c'est bien le cas. En termes humains, il semble donc y avoir une grande constance dans l'univers. Les choses ont l'air de se ressembler, de se produire de façon semblable et de réagir de manière identique. Une certaine cohérence apparaît. C'est bien, car cela te fournit un cadre au sein duquel tu peux envisager et faire l'expérience de ton existence sur le plan physique. Mais je te dis ceci, du point de vue de la vie entière, de ce qui est physique comme de ce qui ne l'est pas, l'apparence de constance disparaît. On vit les choses telles qu'elles sont vraiment, en changement constant. Question. Selon toi, les changements sont parfois si délicats, si subtils que, de notre point de vue, moins perspicace, ils semblent être les mêmes, parfois exactement, alors qu'en fait, tel n'est pas le cas. Réponse. Précisément. Question. Il n'y a pas deux jumeaux identiques. Réponse. Exactement, tu as parfaitement saisi. Question. Mais nous pouvons nous recréer à nouveau sous une forme suffisamment similaire pour produire un effet de constance. Réponse. Oui. Question. Et nous pouvons le faire dans les relations humaines, en ce qui concerne qui nous sommes et dans notre comportement. Réponse. Oui, même si la plupart d'entre vous trouvent cela très difficile. Car la constance véritable, par opposition à l'apparence de constance, enfreint la loi naturelle, comme nous venons de l'apprendre, et qu'il faut un grand maître pour même créer l'apparence de l'identité. Un maître peut surmonter chaque tendance naturelle. Rappelle-toi, la tendance naturelle est au changement, à apparaître sous une forme identique. En réalité, il ne peut apparaître d'instant en instant d'une même façon. Mais il peut surgir avec suffisamment de similitudes pour créer l'apparence de l'identité. Question. Mais les gens qui ne sont pas des maîtres apparaissent tout le temps d'une façon identique. J'en connais dont le comportement et l'apparence sont si prévisibles qu'ils pourraient servir de tuteur à des plantes. Réponse. Oui, le faire intentionnellement exige beaucoup d'efforts. Le maître est celui qui crée intentionnellement un niveau élevé de similitudes. Ce que tu appelles la cohérence. Un disciple est celui qui crée de la cohérence sans nécessairement en avoir l'intention. Une personne qui réagit toujours de la même façon devant certaines circonstances, par exemple, dira souvent « je n'y pouvais rien ». Un maître ne dirait jamais cela. Même si la réaction d'une personne reflète un comportement admirable, pour lequel elle recevra des louanges, sa réponse sera souvent « eh bien, ce n'était rien, c'était automatique, vraiment, n'importe qui pourrait le faire ». Un maître ne ferait jamais cela non plus. Donc, un maître est une personne qui, littéralement, sait ce qu'elle fait. Il sait également pourquoi. Les gens qui n'ont pas atteint la maîtrise ne savent souvent ni l'un ni l'autre. Question. Est-ce pour ce motif qu'il est si difficile de tenir parole? Réponse. C'est l'une des raisons. Comme je l'ai dit, à moins de pouvoir prédire ton avenir, tu ne peux rien promettre avec sincérité. Une seconde raison pour laquelle les gens trouvent difficile de tenir parole tient au fait que leurs promesses entrent en conflit avec l'authenticité. Question. Qu'entends-tu par là? Réponse. Je veux dire que leur vérité, qui est en évolution, diffère de l'annonce qu'ils en ont faite. Ainsi, ils sont en conflit profond. À quoi dois-je obéir? À ma vérité ou à ma promesse? Question. Un conseil? Réponse. Je t'ai donné ce conseil. Te trahir toi-même afin de ne pas trahir quelqu'un d'autre, cela reste une trahison. C'est la plus haute trahison. Question. Mais cela entraînerait partout des manquements à des promesses. Aucune parole de personne n'aurait d'importance vis-à-vis de quoi que ce soit. On ne pourrait compter sur quiconque pour quoi que ce soit. Réponse. Oh, tu t'attendrais donc à ce que les autres tiennent parole, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu aies été si malheureux. Question. Qui affirme que je l'ai été? Réponse. Tu veux dire que c'est de cela que tu as l'air quand tu es heureux? Question. Très bien, d'accord, j'ai été malheureux, parfois. Réponse. Oh, pas mal, souvent. Même quand tu avais toutes les raisons d'être heureux, tu t'es permis d'être malheureux, en te demandant, inquiet, si tu serais capable de conserver ton bonheur. Et la raison pour laquelle tu as même eu à t'inquiéter de cela est la suivante. Le fait de, entre guillemets, garder ton bonheur, dépendait, dans une large mesure, de la parole des autres. Question. Tu veux dire que je n'ai pas le droit de croire, du moins d'espérer, que les autres tiendront parole? Réponse. Pourquoi voudrais-tu donc une telle chose? L'unique raison pour laquelle une personne ne tiendrait pas parole envers toi, ce serait parce qu'elle ne veut pas, ou qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir, ce qui revient au même. Et si une personne ne voulait pas remplir sa promesse envers toi, ou si, pour une raison quelconque, elle ne croyait pas pouvoir le faire, pourquoi donc voudras-tu qu'elle le fasse? Veux-tu vraiment que quelqu'un respecte un accord contre son gré? Crois-tu vraiment qu'il faut obliger quelqu'un à faire des choses qu'il ne croit pas pouvoir faire? Pourquoi voudrais-tu obliger quiconque à faire une chose contre sa volonté? Question. Eh bien, entre autres, parce que le laisser s'en tirer sans remplir sa promesse me nuirait, à moi ou à ma famille. Réponse. Ainsi, afin d'éviter un tort, tu es prêt à en infliger un. Question. Je ne vois pas comment on pourrait porter atteinte à quelqu'un en lui demandant tout simplement de tenir parole. Réponse. Mais il doit le considérer comme une atteinte, sinon il tiendrait volontiers parole. Question. Alors je dois subir l'atteinte, ou voir mes enfants et ma famille la subir, plutôt que de porter atteinte à celui qui m'a fait une promesse en lui demandant tout simplement de la remplir. Réponse. Crois-tu vraiment que si tu obliges un autre à respecter une promesse, tu auras échappé à l'atteinte? Je te dis ceci. De plus grands torts ont été commis par des personnes menant une vie de désespoir tranquille, à faire ce qu'elles croyaient devoir faire, que par des personnes faisant ce qu'elles voulaient. Quand tu donnes de la liberté à une personne, tu écartes le danger, tu ne l'augmentes pas. Oui, ficher la paix, entre guillemets, à quelqu'un à propos d'une promesse ou d'un engagement peut donner l'impression de te porter atteinte à court terme. Mais cela ne te nuira jamais à long terme. Car lorsque tu redonnes sa liberté à l'autre, tu te redonnes aussi ta liberté. Dès lors, tu te libères des souffrances et des chagrins, ainsi que des attaques à ta dignité et à ton amour-propre, qui suivront inévitablement lorsque tu obligeras une autre personne à remplir une promesse malgré elle. L'atteinte à long terme sera beaucoup plus considérable que l'atteinte à court terme, comme l'ont découvert presque tous ceux qui ont contraint quelqu'un à tenir parole. Question. Cette même idée s'applique-t-elle en affaires? Comment pourrait-on faire des affaires de cette façon? Réponse. En réalité, c'est la seule manière saine de mener des affaires. Le problème, à l'heure actuelle, dans votre société, c'est que celle-ci est fondée sur la force. La force juridique, que vous appelez force de loi, et, trop souvent, la force physique, que vous appelez la force armée du monde. Vous n'avez pas encore appris à utiliser l'art de la persuasion. Question. S'il n'y avait pas la force juridique, la force de loi des tribunaux, comment pourrions-nous persuader les entreprises de respecter les clauses de leurs contrats et les modalités de leurs accords ? Réponse. Dans le cadre de votre éthique culturelle actuelle, c'est peut-être l'unique moyen. Mais lorsqu'on aura changé votre éthique culturelle, votre façon actuelle d'empêcher les entreprises, et les individus d'ailleurs, de manquer à leurs engagements paraîtra très primitive. Question. Peux-tu expliquer ? Réponse. Pour vous assurer du respect des engagements de chacun, vous recourez actuellement à la force. Lorsque votre éthique culturelle aura changé jusqu'à inclure l'idée que vous ne faites tous qu'un, vous n'emploierez jamais la force, car cela ne nuirait qu'à vous-même. Vous ne frapperez pas votre main gauche avec votre main droite. Question. Mais si la main gauche était en train de nous étrangler ? Réponse. Cela aussi sera impossible. Vous cesserez de vous étrangler vous-même. Vous cesserez de vous mordre le nez pour contrarier votre visage. Vous cesserez de rompre vos engagements. Et bien sûr, vos engagements même seront très différents. Vous cesserez de donner un objet de valeur à quelqu'un uniquement s'il a une valeur quelconque à vous offrir en échange. Vous ne vous retiendrez jamais de donner ni de partager quelque chose, même si vous n'obtenez pas ce que vous appelez un juste retour. Vous donnerez et partagerez automatiquement. Ainsi, il y aura beaucoup moins de contrats à rompre, car un contrat signifie l'échange de biens et de services, tandis que votre vie concernera le don de biens et de services, peu importe qu'un échange se produise ou non. Mais ce genre de don à sens unique constituera votre salut, car vous aurez découvert ce dont Dieu a fait l'expérience, que ce que vous donnez à un autre, vous le donnez à vous-même. Ce qu'on envoie nous revient. Question. Tout ce qui vient de nous nous revient ? Réponse. Au septuple. Alors, il n'est pas nécessaire de se soucier de ce qu'on retire. Il faut plutôt se soucier de ce qu'on donne. La vie consiste à donner de son mieux et non à recevoir de son mieux. Vous ne cessez d'oublier, mais vivre, ce n'est pas oublier. Vivre, c'est par-donner. Et pour y arriver, vous devez être indulgent envers les autres, surtout ceux qui ne vous ont pas donné ce que vous comptiez recevoir. Ce revirement entraînera un changement intégral de votre profil culturel. Aujourd'hui, ce que vous appelez le succès dans votre culture se mesure largement à la quantité de ce que vous obtenez, à la quantité d'honneur, d'argent, de pouvoir et de biens que vous amassez. Dans la nouvelle culture, le succès se mesurera à l'aune de ce que vous amenez les autres à amasser. Ironiquement, plus vous amènerez les autres à amasser, plus vous amasserez sans effort. Sans contrat, ni accord, sans marchandises, ni négociations, sans poursuites ni tribunaux pour vous obliger à vous donner l'un à l'autre ce qui était promis. Dans l'économie future, vous n'agirez plus en vue du profit personnel, mais en vue de la croissance personnelle, ce qui sera votre profit. Mais le profit, entre guillemets, en termes matériels, viendra à vous lorsque vous deviendrez une version plus grande et plus grandiose de qui vous êtes vraiment. Il vous semblera très primitif, alors, d'utiliser la force pour obliger une personne à vous donner une chose parce qu'elle a dit qu'elle le ferait. Si un autre individu ne respecte pas une entente, vous lui permettrez tout simplement de suivre son chemin, de faire ses choix et de créer sa propre expérience de lui-même. Et ce qu'il ne vous aura pas donné ne vous manquera pas, car vous saurez qu'il en reste davantage et que la source n'est pas cet individu, mais vous. Question. Je pige. Mais j'ai l'impression qu'on s'est vraiment éloigné du sujet. Toute cette discussion a commencé quand je t'ai posé une question à propos de l'amour, en te demandant si les humains se permettraient jamais de l'exprimer sans limite. Et cela a mené à une question sur le mariage ouvert. Puis, on s'est encore très éloigné du sujet. Réponse. Pas vraiment. Toutes ces questions sont pertinentes. Et c'est une introduction parfaite à tes questions sur les prétendues sociétés éclairées ou plus évoluées. Car dans les sociétés hautement évoluées, il n'y a ni mariage, ni affaire, ni d'ailleurs aucune des constructions sociales artificielles que vous avez créées pour structurer votre société. Question. Oui, alors on y arrive. Pour l'instant, je veux tout simplement conclure cette question. Tu as affirmé des choses intrigantes. Si je comprends bien, tout cela revient au fait que la plupart des humains ne peuvent tenir parole et que, par conséquent, nous ne devons pas les y contraindre. Cela s'aborde l'institution du mariage, ni plus ni moins. Réponse. J'aime ton emploi du mot institution. La plupart des gens mariés ont l'impression d'être vraiment en institution. Question. Ouais, une institution psychiatrique ou pénitentiaire, ou tout au moins une institution de haut savoir. Réponse. Exactement, précisément. C'est ainsi que la plupart des gens le vivent. Question. Bon, je plaisantais avec toi, je n'ai pas dit la plupart des gens. Des millions de gens adorent encore l'institution du mariage et tiennent à la protéger. Réponse. J'appuie ton affirmation. La plupart des gens ont beaucoup de difficultés en ce qui concerne le mariage et n'aiment pas l'effet qu'il leur fait. Vos statistiques mondiales sur le divorce le prouvent. Question. Veux-tu dire que le mariage doit disparaître? Réponse. Je n'ai aucune préférence à cet égard. Seulement, question. Je sais, des observations. Réponse. Bravo. Tu continues de vouloir faire de moi un dieu à préférence, ce que je ne suis pas. Merci de bien vouloir cesser. Question. Eh bien, nous venons de s'aborder non seulement le mariage, mais aussi la religion. Réponse. Il est vrai que les religions ne pourraient exister si la race humaine entière comprenait que Dieu n'a pas de préférence, car la religion prétend affirmer les préférences de Dieu. Question. Et si tu n'as vraiment aucune préférence, alors la religion doit être un mensonge? Réponse. Eh bien, voilà un terme sévère. Je dirais que c'est plutôt une fiction, une chose que vous avez inventée. Question. Comme nous avons inventé la fiction selon laquelle Dieu préfère que nous soyons mariés. Réponse. Oui. Je ne préfère rien de la sorte, mais je remarque que vous le faites. Question. Pourquoi? Pourquoi préférons-nous le mariage si nous le savons si difficile à vivre? Réponse. Parce que c'est la seule façon que vous avez trouvée de croire maître du, entre guillemets, toujours ou de l'éternité dans votre expérience de l'amour. C'était la seule façon pour une femme de garantir son soutien et sa survie, et pour un homme de se garantir la constante présence du sexe et de la compagnie. On créa donc une convention sociale. On marchanda quelque chose. Tu me donnes ceci et je te donne cela. En ce sens, cela ressemblait beaucoup à une entreprise. On signa un contrat. Et puisque les deux parties avaient besoin de faire respecter ce contrat, on a dit que c'était là un pacte sacré, avec Dieu, qui punirait ceux qui ne le respecteraient pas. Plus tard, lorsque cela n'a pas fonctionné, vous avez créé des lois humaines pour le faire respecter. Mais même cela n'a pas donné les résultats escomptés. Ni les prétendues lois de Dieu, ni les lois de l'homme n'ont pu empêcher les gens de rompre leur vœu de mariage. Question. Comment expliquer cet aboutissement? Réponse. Simplement parce que ces vœux, tels que vous les avez normalement ébauchés, enfreignent la seule loi importante. Question. Qui est? Réponse. La loi naturelle. Question. Mais c'est naturel pour la vie d'exprimer l'unité. N'est-ce pas ce que je comprends de tout cela? Et le mariage en est notre plus belle expression. Tu sais ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et ainsi de suite. Réponse. Tel que vous le pratiquez, le mariage n'est pas particulièrement joli. En effet, il viole deux des trois aspects de la nature de chaque être humain. Question. Voudrais-tu les énoncer à nouveau? Je crois que je commence tout juste à relier tout ça. Réponse. D'accord, encore une fois. Vous êtes amour. L'amour est illimité, éternel et libre. Voilà donc ce que vous êtes. Voilà la nature de qui vous êtes. Vous êtes illimité, éternel et libre par nature. Ainsi, toute construction artificielle, sociale, morale, religieuse, philosophique, économique ou politique qui enfreint ou subordonne votre nature représente une atteinte contre vous-même et vous vous éleverez contre elle. D'après toi, qu'est-ce qui a donné naissance à votre pays? N'était-ce pas « donnez-moi la liberté » ou « donnez-moi la mort » ? Eh bien, vous avez abandonné cette liberté dans votre pays et vous l'avez abandonnée dans votre vie. Tout cela pour la même chose, entre guillemets, la sécurité. Vous avez tellement peur de vivre, si peur de la vie même, que vous avez cédé la nature même de votre être en échange de la sécurité. Avec l'institution appelée mariage, vous avez tenté de créer de la sécurité, tout comme avec l'institution appelée gouvernement. En fait, ce sont deux formes d'une même réalité, deux constructions sociales artificielles conçues pour gouverner le comportement mutuel. Question. Bonté du ciel, je n'ai jamais vu les choses ainsi. J'ai toujours cru que le mariage était l'ultime proclamation de l'amour. Réponse. Tel que vous l'avez imaginé, oui, mais pas tel que vous l'avez construit. Dans ce dernier cas, c'est l'ultime proclamation de la peur. Si le mariage vous permettait de vivre votre amour d'une façon illimitée, éternelle et libre, alors ce serait l'ultime proclamation de l'amour. Dans le contexte actuel, vous vous mariez en vue de réduire votre amour à une promesse ou à une garantie. Le mariage est un effort en vue de garantir que ce qui est ainsi sera toujours ainsi. Si vous n'aviez pas besoin de cette garantie, vous n'auriez nul besoin du mariage. Pourquoi cette garantie ? D'abord, pour créer de la sécurité, au lieu d'en créer à l'intérieur de vous. Ensuite, si cette sécurité n'est pas éternelle, pour utiliser cette garantie afin de vous punir mutuellement, puisque la promesse de mariage rompu peut maintenant former la base de la poursuite lancée. Vous avez donc trouvé le mariage fort utile, mais pour les mauvaises raisons. Le mariage est également une tentative, de votre part, de garantir que vous n'aurez jamais pour un autre les sentiments mutuels que vous éprouvez, ou du moins que vous ne les exprimerez jamais de la même façon avec un autre.